Vous êtes sur Radio Écho des Choucas 103.7.
Aujourd'hui pour Radio Écho des Choucas, nous avons le plaisir de recevoir Julien Febro, la voix de la Formule 1 sur Canal+, la voix qui nous donne rendez-vous au premier virage chaque week-end de Grand Prix. Bonjour Julien Febro.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors tout d'abord, première question, comment allez-vous en ce début de saison de Formule 1?
Oh bah ça va très bien, prix, donc ça ne peut qu'aller extrêmement bien. Sportivement parlant, on vient de vivre deux premiers Grands Prix extrêmement intéressants, passionnants. On rêvait que malgré le changement de réglementation en Formule 1, deux écuries au moins puissent rester au coude à coude et se battre pour les victoires, et c'est exactement ce qui se passe. Alors il en manque une pour l'instant, c'est Mercedes qui n'est pas encore dans le coup pour se battre pour les victoires, mais aux avant-postes, on a Ferrari et Red Bull, et qui, malgré des philosophies de voitures extrêmement différentes l'une de l'autre, eh bien atteignent des performances quasi similaires. Et le dernier Grand Prix s'est joué à quelques centièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Donc moi, je suis ravi. Encore une fois, quels que soient les pilotes, quelles que soient les écuries, moi, ce que j'aime, c'est quand ça se bataille jusqu'au bout. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Et d'ailleurs, les abonnés ne se sont pas trompés, puisqu'on a touché dimanche dernier notre deuxième record historique d'audience sur Canal+. Donc voilà, je suis ravi que sportivement, on ait assisté déjà à deux très beaux Grands Prix pour entamer cette saison.
Et oui, tout à fait, deux beaux Grands Prix pour entamer cette nouvelle saison de Formule 1. On va revenir tout d'abord sur votre parcours. Vous êtes fils de pilote de rallycross et également de rally raid. Racontez-nous un peu justement votre parcours.
Ah ben moi je suis un petit breton né à Rennes et qui a fait toute sa scolarité à Quimper, et c'est vrai que je passais mes vacances scolaires et certains de mes week-ends à suivre mon papa sur ses courses automobiles. Il était pilote amateur bien sûr, mais voilà, pilote automobile. Donc forcément, j'ai grandi en tournant autour des voitures de course, en bricolant, en frottant la carrosserie de sa voiture pour que ce soit la plus belle, et en jouant dans ce qu'on appelle les paddocks ou les parcs concurrents avec les fils d'autres pilotes automobiles qui, ce qui est amusant, sont devenus aujourd'hui mes adversaires sur la piste quand à mon tour je prends le volant. Donc on parle vraiment de transmission de passion et de vocation venue par la passion du sport automobile.
Justement, cette passion, vous l'avez transformée en faisant votre métier. Racontez-nous comment vous êtes venu commentateur de Formule 1, avec bien évidemment un début du côté des médias, de la radio, du journalisme également.
Bien, la passion du sport auto était tellement dévorante que je ne m'imaginais pas dans la vie vivre dans un autre univers que le sport automobile. Donc je voulais absolument vivre en sport auto, et du coup voilà, j'ai décidé d'orienter très jeune mes études vers le journalisme, et en me disant que ce serait une belle façon de couvrir le sport auto, d'approcher le sport auto, d'approcher les pilotes qui me faisaient rêver et qui me font toujours rêver aujourd'hui d'ailleurs. Et donc rapidement au lycée, je me suis dit que j'allais orienter mes études vers le journalisme. C'est ce que j'ai pu faire, et j'ai eu la chance dans mon parcours de pouvoir rencontrer des employeurs, des maisons, et travailler dans des maisons qui couvrait le sport automobile et la Formule 1 en particulier. Et donc j'ai pu comme ça me constituer de l'expérience et commencer à partir sur les Grands Prix de Formule 1 assez tôt finalement dans mon parcours professionnel.
Et justement, racontez-nous le premier voyage sur votre premier Grand Prix de Formule 1 que vous avez couvert. Racontez-nous un peu voilà ce que vous avez ressenti.
Ah bah c'est forcément un souvenir marquant. C'était en 2005, à l'époque je travaillais encore en radio, et c'est vrai que l'envoyé spécial à l'époque qui partait sur les Grands Prix de Formule 1 venait de choisir une autre voie, une autre branche dans la communication, et il y a eu cette opportunité de partir sur mon premier Grand Prix. Et c'est vrai que quand je l'ai saisi, quand j'ai eu cette chance-là, j'ai essayé d'en faire quelque chose de bien et de ne pas manquer la chance qu'on me donnait. On m'accordait deux grands prix pour faire mes preuves, et c'était en 2005, début 2005. Et c'est vrai que le Grand Prix de Malaisie aura été mon premier Grand Prix sur place et je m'en souviendrai toujours. C'est de là que tout est parti. Et ensuite, bah, il y en a eu quelques autres, semble-t-il, après, puisque de ces deux premiers Grands Prix, j'en suis à, je crois, 313 ou 314 aujourd'hui Grands Prix couverts en Formule 1.
Ah, quelque chose d'incroyable, hein. Vous êtes donc sur ces Grands Prix de Formule 1 depuis de nombreuses années. Quel regard avez-vous justement sur l'évolution de cette discipline avec l'évolution des règlements, entre autres, et des véhicules ?
L'évolution, elle est permanente dans ce sport. C'est aussi ce qui en fait une discipline passionnante, c'est qu'elle ne reste jamais figée. Elle est tout le temps en évolution, en ébullition aussi. Les pilotes changent, les nouvelles générations se montrent et poussent vers la sortie les plus anciens. Les règlements ont changé, ont nettement, grandement changé cette année, techniquement parlant. Les formats de week-end évoluent aussi. Enfin, c'est un sport en perpétuelle évolution. Donc, c'est passionnant à courir. Moi, je suis très heureux de voir la direction prise par la Formule 1, la manière dont est aujourd'hui filmée la F1 de manière extrêmement immersive. Alors, l'immersion a toujours été notre maître mot à Canal+. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on propose des caméras embarquées dans le casque des pilotes, au niveau des yeux des pilotes, bah moi, je trouve ça fantastique à proposer à nos abonnés. Je vois que les nouvelles générations de voitures sont tournées vers plus de spectacles parce qu'elles peuvent se suivre de plus près. Et c'est exactement ce qu'on a pu vivre sur les deux premiers Grands Prix de la saison. On a vu des batailles entre coéquipiers, notamment chez Alpine, parce qu'ils arrivaient à se suivre de près. On a vu une bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen parce qu'ils arrivaient aussi à se suivre de près. Donc je trouve que c'est une discipline qui prend une très bonne direction. L'audience de la Formule 1, et on le mesure sur Canal+, c'est rajeuni, c'est féminisé. Donc tout ça, ce sont de très bons indicateurs. Donc c'est une discipline qui se porte très bien, à laquelle il faut toujours faire attention. Il faut jamais se reposer, toujours se dire que peut-on faire de mieux. Et c'est ce que nous, à Canal+, on se pose comme question en permanence pour offrir à nos abonnés un spectacle vraiment total et permanent. Et c'est ce que se posent comme question aussi les patrons et les propriétaires de la F1. Donc voilà, je trouve qu'on va dans une belle direction avec ce sport.
Et bien justement, on va prendre la direction du dernier Grand Prix de Formule 1 avec un tremblement de terre, un séisme hein, qu'on a vécu lors de la séance des qualifications, entre autres le crash de Mick Schumacher, heureusement qu'il se porte bien, mais surtout l'élimination de Hamilton lors de la première séance, c'était quand même un tremblement de terre qu'on a vécu.
Oui, ça lui était pas arrivé à la régulière depuis 2009 de se faire éliminer dès la première partie des qualifications. Il lui était déjà arrivé pour des problèmes techniques, pour un crash une fois, mais en performance pure de son véhicule, c'est la première fois que ça lui arrivait depuis 2009. Donc rendez-vous compte du temps qui s'est écoulé pour en arriver là. Sauf que bien voilà, la F1 a changé. On se posait l'hiver dernier la question de savoir quelles seraient les écuries qui bénéficieraient de ces nouveaux règlements, quelles seraient celles qui auraient plus de mal à s'y adapter, à trouver leur marque. Et il se trouve que parmi celles qui a le plus de mal à trouver ses marques, il y a l'écurie, cette fois championne du monde consécutivement, et c'est l'écurie de Lewis Hamilton. Donc on sait que c'est un sport mécanique, il a aussi bénéficié pendant des années de la meilleure voiture, et il en a fait quelque chose de formidable en devenant au total cette fois champion du monde. Aujourd'hui, il a une voiture qui n'est plus capable de le faire gagner, et malgré tout son talent qui est gigantesque, pour l'instant, il doit se contenter parfois d'une 10e place à l'arrivée, et c'est ce qui s'est passé dimanche, et de se faire éliminer en Q1 samedi après-midi. Donc c'est la loi du sport, c'est la loi de ce sport, et pour l'instant, il en est victime. Je pense qu'avec son immense talent et l'immense talent de son équipe, ils vont trouver des solutions. Maintenant, la question est de savoir combien de temps ça prendra.
On va poursuivre également en parlant de Charles Leclerc, le monégasque qui fait un très beau début de saison, et également non français, hein, avec quand même de belles places sur le dernier Grand Prix. Hein, on rappelle Ocon et Gasly. Un petit avis sur ces trois pilotes.
Je trouve la chance de voir le talent de ces jeunes, hein. C'est la jeune génération de la F1. Charles Leclerc, je pense qu'il arrive à maturité chez Ferrari. C'est sa 4e saison avec cette écurie, qui est une équipe particulière dans laquelle il faut trouver vraiment sa place. C'est pas quelque chose d'évident. Donc je pense que le timing est vraiment excellent pour lui, entre son niveau d'expérience, son niveau de connaissance de cette écurie et les performances de son écurie à l'heure actuelle. Donc clairement, tout est réuni pour qu'il qu'il exécute une grande saison. Est-ce que ce sera la saison du titre mondial pour lui? C'est possible, mais rien n'est garanti, évidemment. Pour nos Français, pareil, ils ont maintenant de l'expérience, ils ont vécu. Ça fait deux fois que Esteban termine dans les points sur les deux premiers Grands Prix. Il était très bien placé sur la grille de départ le week-end dernier. Il est capable de surperformer une voiture même qui n'est pas au niveau. C'est vrai qu'Alpha Tauri est encore un peu instable dans ses performances. Et elle peut être très efficace, comme d'un seul coup beaucoup moins bonne, sans qu'ils arrivent à vraiment comprendre pourquoi au sein de son équipe. Mais en termes de pilotes, on a affaire là à deux pilotes français et à un monégasque qui sont quand même très matures, je trouve, pour leur âge, et qui, avec l'expérience qui est la leur, sont capables de gérer des situations compliquées. Donc c'est quand même de très bon augure pour la suite.
On va se régaler en effet tout au long de cette saison. Prochain Grand Prix le 10 avril du côté de l'Australie. Est-ce que alors on pourrait avoir un petit peu ton petit pronostic pour ce Grand Prix?
Je serais bien incapable de vous donner un pronostic. Déjà, je suis très mauvais à ce jeu-là. je n'aime pas trop y prêter, mais je pense ça va être intéressant. Non, mais c'est difficile d'émettre un pronostic parce que là, il va s'être écoulé 15 jours ou une dizaine de jours. Là, on a enchaîné les deux premiers Grands Prix, donc il y avait quand même peu de chances de voir la hiérarchie vraiment évoluer à une semaine d'intervalle entre les deux premiers Grands Prix. Là, les équipes retournent à leur base, qu'elles soient italiennes ou anglaises ou autres ou suisses, mais ils ont plus de temps pour analyser ce qui s'est produit sur les deux premiers Grands Prix et commencer à apporter des solutions. Donc je pense que la hiérarchie ne sera pas chamboulée en Australie, mais elle peut commencer assez subtilement à évoluer. Donc est-ce que ce sera l'amorce du retour de Mercedes? Faut l'espérer pour eux. Est-ce que entre Red Bull ou Ferrari, l'un aura réussi à effectuer un plus grand pas que l'autre dans son développement et commencera à se détacher peut-être aussi? Donc c'est vraiment impossible d'émettre un pronostic. Mais j'aime beaucoup être dans cette position de ne pas pouvoir donner de pronostic. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à détacher un favori. Et ça, dans l'intérêt du sport, bah, c'est très bon. J'aime même me faire surprendre et ne pas être capable de nommer le vainqueur. Il y a quelques temps de ça, on aurait pu nommer le prochain vainqueur. Je préfère quand on n'est pas capable de le faire et qu'on laisse le sport et le scénario s'écrire sous nos yeux en direct.
Et ben, en tout cas, on invite nos auditeurs à suivre, bien évidemment, cette saison de Formule 1 qui s'annonce riche en rebondissements, bien évidemment. Et on se donne rendez-vous au premier virage le 10 avril prochain du côté de Canal+, pour ce Grand Prix du côté de l'Australie. En tout cas, un grand merci à vous, Julien Febro, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Éco des Choucas.
Merci beaucoup.
Bonne journée.